Bonjour à tous, ceux que je n'ai pas salués. Le titre de mon message, vous l'avez là. Ne vous conformez pas au monde présent. C'est vrai que j'aurais pu appeler ça de plein d'autres manières, mais ça va être le fil rouge du message d'aujourd'hui. Un message qui est peut-être plus une longue réflexion, le fruit d'une réflexion que j'ai faite pendant mes études de théologie, que je continue à faire en fait. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'arrive au bout de ma maîtrise en théologie, encore une année, et puis j'aurai terminé ces études que j'ai commencées il y a bien longtemps. Et études à la HET, maintenant à Aix-en-Provence. Et puis c'est une réflexion aussi assortie de quelques interrogations. Vous allez voir ça au fil du message. Interrogation sur notre christianisme, le christianisme occidental. Donc ça concerne pas seulement l'escale ou spécifiquement l'escale, mais un peu ce christianisme suisse occidental qui vit dans un monde prospère comme le nôtre. Et j'ajouterai que je suis le premier concerné par tout ce que je vais vous partager. Ça, c'est aussi une évidence. C'est peut-être plus un cœur à cœur qu'un message en trois points, une présentation ou exposition, explication, application. Quelque chose que j'aimerais vous partager aujourd'hui et auquel j'aimerais vous inviter à réfléchir. Ce qui a déclenché, peut-être ce qui est utile de préciser aussi, c'est que ce qui a déclenché cette réflexion, c'est notamment un long travail que j'ai fait sur l'appel de Jésus pour tous ceux qui veulent le suivre, à renier leur vie, à porter leur croix. Ça, c'est vraiment une réflexion que j'ai menée, et j'ai fait un mémoire par rapport à ça, mais aussi un cours sur le sermon sur la montagne, qui est vraiment un enseignement redoutable de Jésus, qui s'adresse à nous tous ceux qui veulent le suivre, tous ceux qui veulent être les fils du Père Céleste à la suite de Jésus-Christ. Donc, je ne vais pas m'arrêter beaucoup sur le sermon sur la montagne, il y aura quelques versets que je vais évoquer, mais sachez que cet appel, cette radicalité de l'évangile, elle est en arrière-plan de ce message. C'est aussi un message qui s'inscrit dans la continuité de ce que nous a apporté Léo Garcia, je ne sais pas si vous étiez présent. C'était fin avril, et Léo nous a encouragés à ne pas vouloir une religion confortable qui utilise Dieu comme un simple instrument facilitateur, je reprends ces mots, qui réduit Dieu à un sponsor de nos désirs égocentriques. Il nous a encouragés à réévaluer notre relation avec Dieu, à réévaluer nos priorités aussi. Et ce message que je fais, il s'inscrit vraiment dans cette réflexion qu'il a amenée. C'est assez complémentaire, ça va dans le même sens, sous un angle un peu différent. L'angle peut-être de l'idolâtrie des cœurs, plutôt le matérialisme, plutôt que l'individualisme. Mais les deux se nourrissent l'un l'autre, et vraiment on ne peut pas parler de l'un sans parler de l'autre, donc il y a vraiment une complémentarité avec ça. Je vais aussi faire le lien avec quelques messages récents qui ont été faits ici depuis cette chaire. Voilà pour l'introduction. Pour démarrer la réflexion, je ne vais pas partir de Romains 12, c'est le Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez renouvelés par le renouvellement de votre intelligence. Maurizio, ça me fait toujours plaisir, parce que chaque fois que je préside ou que je prêche, Maurizio, il dit des choses que je vais dire. Dieu au-dessus de toutes les idoles. Amen. Eh bien, c'est ce qu'on va voir. On va partir de l'expérience du peuple d'Israël dans l'Ancienne Alliance. Le peuple de l'Ancienne Alliance, et Paul nous dit que tout ce qui leur est arrivé, ça nous est arrivé pour qu'on ne tombe pas dans le même panneau, nous, peuple de la Nouvelle Alliance. Alors, est-ce qu'on fait mieux? C'est ce qu'on va voir dans un deuxième temps. Mais là, on va d'abord s'intéresser à Israël et au problème dans lequel il est tombé tout au long de son histoire, c'est le péché d'idolâtrie. Et ça, vous l'avez tous remarqué en lisant l'Ancien Testament, c'est ce péché particulier qui a conduit le peuple en exil, qui a attiré le jugement de Dieu sur lui. Et les prophètes, ils n'ont pas arrêté de dénoncer ce péché comme le péché central dont découlent à peu près tous les autres, toutes les autres infidélités à l'alliance, découlent de ça, découlent du fait qu'on se tourne vers d'autres dieux et qu'on met Dieu de côté, sa parole de côté, et notamment l'injustice sociale. Il y a plein de choses qui ont été, on va dire, en dehors de la volonté de Dieu dans la vie d'Israël, mais ça découle de cette idolâtrie. Et bien sûr, ce peuple s'est tourné à peu près vers tous les dieux des peuples voisins, Astarté, qui est Asherah, Kemosh, Milcom, mais c'est surtout le dieu cananéen Baal, le culte de Baal, qui a vraiment attiré, qui était un dieu très populaire dans tout le Proche-Orient ancien, mais surtout en Canaan, en Phénicie aussi, qui était pratiqué en Israël. Alors, pourquoi Baal ? Qu'est-ce qui était si intéressant dans ce culte de Baal, si attirant pour le peuple d'Israël ? Alors, quelques mots sur Baal et le baalisme. Peut-être ça nous aidera à faire après les liens avec nos vies personnelles. Et Baal, c'était le dieu de l'orage, qui était le dieu le plus populaire adoré dans une bonne partie du Proche-Orient ancien, notamment le Levant, Canaan, et qui dit orage, dit pluie, et qui dit pluie, dit récolte. C'était vraiment le dieu de la fertilité, le dieu de la fécondité, et il était souvent représenté, ça on voit sur l'image de gauche, avec la foudre à la main, et aussi symbolisé par un taureau. Le taureau, c'était un symbole de puissance, mais aussi de fertilité, fécondité. Et puis, faut se rappeler qu'Israël, c'était une société principalement agraire. Et la subsistance, d'où est-ce qu'elle provenait ? Elle provenait surtout de la productivité des champs, de la santé des troupeaux, de l'élevage et de l'agriculture. C'est ça qui faisait qu'on pouvait manger du pain jour après jour. Et le peuple d'Israël pensait qu'en multipliant les autels à Baal, il allait augmenter ses récoltes. Et il a imité les peuples voisins et pratiqué ce culte pour s'assurer sa subsistance. C'était ça le but qu'il y avait derrière. Une petite chose intéressante aussi que j'aimerais souligner, c'est que le culte de Baal était souvent pratiqué en plus du culte de Yahvé, à côté du culte de Yahvé. Ça a pu prendre la place par moment, mais souvent c'était fait en parallèle. Israël jouait sur deux tableaux. Et c'était le cas notamment à l'époque d'Élie. Je pense que vous connaissez tous Élie, le roi Achab, Jézabel, sa femme, qui était phénicienne, qui a vraiment promu ce culte de Baal en mettant sur pied tout un clergé, 450 prophètes de Baal à l'époque d'Élie. Et face à cette situation, Élie, au Mont Carmel, ce fameux épisode, où il avait d'abord déclenché la sécheresse, pour bien montrer que c'est Dieu qui est maître de la pluie, pas Baal, que c'est lui qui est maître des récoltes, parce qu'il y a eu une famine qui a commencé à sévir après trois ans de sécheresse. Il a convoqué, il a dit, Achab, tu convoques tout le peuple d'Israël et tous les prophètes de Baal et d'Astarté. Et il a sommé le peuple, le roi, à choisir entre les deux. On ne peut pas servir Baal et Dieu en même temps. On ne peut pas servir Dieu ou toute autre idole. L'un exclut l'autre. Et voilà ce qu'il va dire. Alors, Élie s'approcha de tout le peuple et dit « Jusqu'à quand sauterez-vous d'un pied sur l'autre, clocherez-vous des deux pieds ? Si c'est le Seigneur qui est Dieu, suivez-le. Si c'est Baal, suivez-le. » J'ai parlé de l'importance de l'agriculture, de la productivité des champs, de la fécondité des troupeaux pour la subsistance à cette époque. Et Dieu sait que le pain est important. Dieu sait que Dieu dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de la parole qui sort de sa bouche, mais du pain aussi, on en a besoin. Et c'est pour ça qu'il s'est révélé comme le Dieu qui pourvoit à Israël dans le désert, alors qu'il n'y avait rien du tout, il n'a rien manqué. au peuple de Dieu qui a vécu dans ce désert pendant 40 ans. Il s'est aussi révélé comme celui qui continuera à pourvoir aux besoins du peuple d'Israël, notamment dans le cadre de l'alliance du Sinaï. Et dans Deutéronome, on lit à la fin où Moïse a répété toute cette alliance auprès de la deuxième génération, celle qui n'a pas connu le désert. Il y a ses bénédictions et ses malédictions. Et dans ces bénédictions, Dieu dit, j'ai pas le texte sous les yeux. Pardon. Si tu obéis bien à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ses commandements, tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans la campagne. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, la reproduction de tes bovins et les portées de tes brebis seront bénies, etc., etc. Il y a d'autres textes qui parlent de ça. Il va parler aussi de la sécurité face aux ennemis. Il va promettre un certain nombre de choses à son peuple, pour l'inciter à la fidélité. En gros, on pourrait dire, soyez fidèles à mon alliance, et tout cela, tout ce dont vous avez besoin, vous sera accordé en plus. Et chose importante à se rappeler, c'est que l'exclusivité que Dieu exigeait de son peuple, sa fidélité, il avait un but bien précis. C'était pas une fin en soi. L'enjeu derrière l'obéissance, c'est la bénédiction des nations. C'est en effet utile de se rappeler la vocation du peuple d'Israël que Dieu a élu pour être un peuple à part, différent de toutes les autres nations. Pourquoi ? Pour amener tous les autres peuples à la connaissance de Dieu, pour rendre visible Dieu aux yeux de tous les peuples qui étaient alentour, en voyant la sagesse, la justice qu'il y avait dans les lois de l'Éternel, dans l'organisation d'Israël, dans l'adoration, dans les sacrifices du temple, dans tout ce que vivait Israël en fidélité à la loi, eh bien tout ça devait rendre manifeste que Dieu était présent au milieu de ce peuple. Ça devait mettre en évidence la grandeur du Dieu d'Israël et attirer les nations à Jérusalem. C'était ça, c'est ça le but et l'enjeu de la fidélité. Le but ultime de l'existence d'Israël est la révélation de la grandeur du nom de Dieu. Et il devait être en quelque sorte une lumière pour les autres nations. Mais au lieu d'être une lumière pour les autres nations, ben voilà qu'est-ce qui s'est passé. Dieu a imité les pratiques des autres nations. Il y a eu une piété de façade. Je vous ai dit souvent qu'ils ont joué sur les deux tableaux. Il y avait encore ce culte à Yahvé qui était fait... C'est un peu des juifs du Shabbat, hein, pas des chrétiens du dimanche, mais des juifs du Shabbat. Et puis à côté de cette piété de façade, ce vernis religieux, Israël s'est mis à rechercher les mêmes choses que les autres peuples, servir leurs idoles, imiter leurs pratiques. Et pourquoi est-ce que je vous parle de tout cela? Quel rapport avec nous aujourd'hui? En quoi ça peut nous servir d'avertissement pour nous, chrétiens, suisses, vivant dans un pays nanti. Cet exemple d'Israël m'interpelle sur bien des points et puis m'interroge sur notre manière de vivre, nous, chrétiens du XXIe siècle, dont je suis le premier, je le répète. La première question que je me pose par rapport à ça et que je vous pose, c'est, on ne va pas passer trop de temps sur les idoles, mais quelles sont les idoles aujourd'hui, les idoles modernes, les plus attractives, les plus populaires, bien sûr, pas au sens littéral. Je suis déjà en vacances. Hein. Je ne vais pas aller... Je vais rester sur le littoral du lac de Neuchâtel. Peut-être on pourrait partir d'une définition simple de ce que c'est l'idolâtrie. L'idolâtrie est une mise en cause des droits exclusifs de Dieu à notre amour, notre confiance et notre obéissance. Et puis si on veut être un peu plus concret, parce que c'est bien d'être concret, on pourrait prendre la définition de Timothy Keller, qui a écrit un livre très intéressant sur les idoles du cœur. Et il dit « Toutes les choses sur lesquelles nous comptons et que nous jugeons plus importantes que le Christ dans notre quête d'acceptation de bonheur, d'importance et de sécurité sont par définition des dieux. Des choses que nous adorons, que nous servons et dont notre vie entière et notre cœur dépendent. En règle générale, les idoles peuvent être de bonnes choses. Elles sont souvent en fait de très bonnes choses. Famille, réussite, etc. Là, il y a quelques exemples qui sont mis, que nous transformons en choses ultimes. C'est des choses qui ne sont pas absolues, mais qui deviennent suprêmes, essentielles dans notre vie. Alors, petit sondage, les idoles aujourd'hui, les idoles les plus populaires, celles qui pourraient nous attirer, nous aussi, bien sûr, hein, pas celles, l'argent, la santé, les médicaments, je dirais peut-être la santé, ouais. Alors l'argent, la santé, le travail, ouais. C'est une bonne chose, hein, le travail, on doit tous travailler si on veut manger. Les réseaux sociaux, pourquoi les réseaux sociaux? On y passe beaucoup de temps, mais pourquoi? Enfin, une chose que je ne fais pas, c'est ça, mais c'est bien une des seules. Oui. Voilà. En fait, il y en a plein. Il y a plein d'idoles, notamment des choses qui sont très bonnes, hein, dont on a besoin, mais qui deviennent des choses ultimes, des choses essentielles dans les vies qui sont centrales. Et une bonne manière d'identifier, on va dire, à l'image de Baal, il y avait plein de dieux, mais c'était Baal le dieu le plus populaire, parce que c'est lui qui était censé assurer la bénédiction, la subsistance, la sécurité matérielle. Et une bonne manière d'identifier les idoles, c'est de savoir ce qui inquiète le plus les Suisses dans les sondages face à l'avenir. Et les thèmes qui reviennent le plus souvent, c'est la perte de l'emploi et la prévoyance vieillesse. Et c'est la perte de l'emploi. L'emploi, c'est ce qui assure le pain aujourd'hui, et l'assurance vieillesse, c'est ce qui assure le pain demain. Donc c'est vraiment lié à une sécurité matérielle. Et c'est un peu ça que je vais parler un petit peu aujourd'hui, même si, bien sûr, toutes les autres idoles seraient intéressantes à un peu explorer pour voir si ça peut nous concerner. Une deuxième question que je me pose par rapport à là, si on regarde au style de vie de nous, chrétiens suisses, est-ce qu'on se distingue des non-croyants par rapport notamment à ça, mais peut-être d'autres choses? Comme j'ai dit, voilà, chacun, Dieu va parler différemment à chacun par rapport à ce message aujourd'hui. Et ce qui est central, ce qui est essentiel, ce qui fait bouger et vivre les non-croyants, ceux qui n'ont pas d'espérance, est-ce qu'à nous c'est très différent? Ce qui oriente nos principaux choix de vie, là où on met l'essentiel de nos forces, l'essentiel de notre énergie, notre cœur, notre espérance peut-être aussi dans un certain sens, est-ce que c'est vraiment très différent de ce qui anime les non-croyants? Et puis si je veux être très concret par rapport à la sécurité matérielle, est-ce que je place ma confiance dans les avoirs, dans la LPP, dans ma fortune, etc., ou en celui qui pourvoit? Je ne vous demande pas de répondre. Hein. C'est des questions que je me pose continuellement, depuis un certain nombre d'années, et puis je laisse Dieu me déranger avec ça. Mais je ne demande pas de réponse aujourd'hui. Un petit test que propose Timothy Keller, toujours, Il dit un signe certain d'idolâtrie dans la vie d'une personne est une angoisse, de la colère ou du découragement excessif quand nos idoles s'éloignent ou quand on les perd. Hein. Si nous perdons une bonne chose, cela nous rend triste, mais si nous perdons une idole, cela nous anéantit. Alors, crash test que je me pose, hein, c'est des questions que je me pose à moi aussi. Quelle réaction provoquerait un effondrement du système de prévoyance vieillesse ? Joie. Je pense. Je vous demande pas de lever la main. Hein. Indifférence. Contrariété. Tristesse. Angoisse. Anéantissement. Désespoir. Et ce genre de questions, c'est bon de se les poser parce que ça va nous dire un certain nombre de choses où est notre cœur par rapport à toutes les idoles qui nous entourent. Pensons pas que nous sommes pas entourés d'idoles. Et qu'il n'y a pas des séductions par rapport à ça pour le peuple de Dieu. Je m'arrête là. Les idoles des cœurs, c'est un sujet en soi. Je voulais juste donner un aperçu des questions qu'on peut se poser par rapport à la radicalité de l'évangile, de la suite du Christ, en lien avec la manière de vivre de ce monde. Est-ce qu'on se conforme à l'évangile ou est-ce qu'on se conforme au monde présent ? Et puis, la troisième question, je ne sais pas ce que vous êtes dit dans votre tête, mais moi, je me pose la question, est-ce que c'est compatible avec l'évangile, avec la foi dans l'évangile et l'espérance chrétienne ? Et là, je propose quelques versets. Il y en aurait plein d'autres, hein, mais voilà, Christ est mort pour tous, afin que les vivants ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ne vous amassez pas de trésors sur la terre où les vers et la rouille détruisent, où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous, vous, des trésors dans les cieux ou dans le ciel. Nul ne peut servir deux maîtres, car où il haïra l'un et aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Ça, c'est le sermon sur la montagne. Hein. Ne vous inquiétez donc pas en disant « Que mangerons-nous » ou « Que boirons-nous » ou « De quoi serons-nous vêtus ?» car cela, ce sont les païens qui le recherchent. Or, votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus. Il y a tellement d'autres textes qui parlent de ça, qui vont dans ce sens, qui appellent à une radicalité. Et plus je médite l'Évangile, plus j'arrive à la conviction que vivre cela n'est pas optionnel. Je ne peux pas continuer à mettre tous ces versets sous le tapis en disant, voilà, ça ne m'arrange pas trop, je veux continuer un peu à faire ma petite cuisine et puis à vivre un peu à ma manière. Je ne peux plus faire ça. Je n'y arrive plus. Et c'est parce que je me confronte à cette parole, je la laisse me déranger. Et une citation de Daniel Marguerat qui résume un peu ce que je ressens au fil des années en méditant tous ces textes de l'Évangile. C'est celle-ci, je la lis. Confondre le salut avec une possession tranquille, on pourrait dire croire que je suis justifié par la foi, puis c'est OK, sans présenter les fruits de l'obéissance est une contradiction insupportable. Le salut est toujours une invitation gratuite de Dieu, ça c'est juste et bon de le rappeler continuellement, mais la réception de ce salut engage nécessairement le croyant sur un chemin de fidélité. Nécessairement. Et le sermon sur la montagne, regardez comment ça se conclut, les deux voies, le chemin étroit, ça c'est aussi quelque chose qui a été dit aujourd'hui, la voie étroite, le chemin étroit. Le fait que ce ne sont pas ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume, mais ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans le ciel. Et moi ça me parle, est-ce que ça vous parle ? Aujourd'hui, ce genre de choses. Amen. Et de nouveau, moi, mon, Alors vraiment, le but, ce n'est pas de culpabiliser du tout. C'est se rappeler quel est l'enjeu qu'il y a derrière ça. L'enjeu, ce n'est pas obéir pour obéir, pour être un bon chrétien, pour qu'on nous tape dans le dos, pour dire c'est super ce que tu fais. Comme pour le peuple de l'ancienne alliance, l'enjeu de notre fidélité, c'est d'être une lumière pour les non-croyants. C'est le salut des nations, c'est la bénédiction des nations qui est la volonté de Dieu depuis la chute, de bénir tous les hommes, toute sa création. Et ça passe par son peuple, celui qu'il met à part pour être une lumière, celle au milieu des nations. Et Luc nous a parlé dans un de ses messages, la série sur la foi. Il a parlé, par exemple, d'une foi qui se voit. Jean-Jacques nous a rappelé que, lors du message de la Pentecôte, on est tous appelés à être témoins. Et moi, je trouve que c'est des très bons messages. Mais la question que je me pose quand j'entends ce type de message, c'est quel peut être l'impact de notre témoignage, la force et la crédibilité de notre témoignage verbal, de notre discours, si on ne peut pas vraiment faire de différence entre un chrétien et un non-chrétien, si notre foi est invisible aux yeux des non-croyants. Et là, je ne parle pas forcément individuellement, mais collectivement, parce que je pense que pour vivre une foi visible aux yeux des non-croyants, ça passe par une dimension communautaire beaucoup plus forte. Quel impact ça peut avoir si notre foi elle n'est pas traduite dans un style de vie qui manifeste les valeurs du royaume, qui manifeste un style de vie qui montre que notre espérance n'est pas de ce monde, n'est pas d'être en bonne santé, d'être à l'abri du besoin jusqu'à la fin de nos jours, pouvoir consommer tranquillement, qu'on n'a pas ces mêmes buts. C'est pas ça qu'on cherche dans notre vie, c'est pas ça qu'on recherche. Et si vous permettez, par rapport à l'espérance chrétienne, quelle est notre espérance ? Parce que c'est quand même un élément fondamental qui va orienter nos vies. C'est est-ce que je veux vivre confortablement ici ou est-ce que je suis orienté vers l'éternité, sur les choses éternelles, sur les choses d'en haut ? C'est l'exemple des chrétiens des premiers siècles, dans un cours que j'ai eu qui s'appelait « Christianisme et culture ». Évangile, culture et évangile, et ça m'a profondément marqué. J'aimerais vous partager ça brièvement. L'exemple des chrétiens, on a le contre-exemple du peuple de l'ancienne alliance, mais on a beaucoup d'exemples de personnes qui ont vécu à la lumière de leur espérance. Et notamment les chrétiens des trois premiers siècles, ils se sont vraiment démarqués beaucoup du monde gréco-romain dans lequel ils vivaient. Je ne peux pas parler de comment était le monde gréco-romain dans le détail, mais bien sûr, ça commençait par le refus de l'idolâtrie. Et l'idolâtrie, c'était omniprésent dans ce monde gréco-romain, dans la vie familiale, dans la vie professionnelle, bien sûr, les cultes, dans la religion, mais c'était omniprésent. Et ils ont dû renoncer à ça, et ça leur a coûté. Ça coûtait, chaque jour, ça leur coûtait quelque chose de renoncer à ces idoles. Et puis aussi, et puis c'est là l'exemple que j'aimerais cités, ils se sont démarqués par aussi la charité chrétienne envers les pauvres, les étrangers, les orphelins et les malades. Et dans l'Antiquité, c'était vraiment pas normal de s'intéresser aux pauvres. Et voilà, c'était même les chrétiens, leur charité, c'était vraiment, ils étaient considérés comme des gens bizarres, presque comme des ennemis de l'humanité, des gens vraiment dérangés dans leur tête, et parfois même ridicules de s'intéresser à des pauvres. Pourquoi ? Parce qu'il faut savoir que dans la religion gréco-romaine, c'était surtout des rites, mais il n'y avait pas de code éthique. On est surpris, parce qu'on se dit, qui dit religion, on dit code éthique. Ben non, il n'y en avait pas. On abandonnait les enfants, on ne se souciait pas des pauvres, des inégalités, on n'accueillait pas l'étranger, c'était vraiment considéré comme quelque chose d'absurde. L'aide sociale était limitée à la famille. Quand on aidait quelqu'un, c'était ses proches parents, puis c'est tout. Et puis la bienfaisance, il y avait un petit peu, mais c'était intéressé, c'était les riches qui voulaient augmenter leur statut et puis rendre visible leur bienfaisance, mais aussi obliger l'autre. Ils pouvaient rendre des services utiles par la suite. Et j'en viens à l'essentiel par rapport à cet exemple des chrétiens. Il y a eu différentes périodes de peste pendant l'Antiquité, notamment une peste qui a duré 15 ans entre 165 et 180, et ça a atteint tout l'Empire, et ça a touché du quart au tiers de la population. Donc c'était vraiment des pandémies bien plus sévères que ce qu'on a connu récemment. Et puis il y a eu aussi une peste à Alexandrie en 251, et là ça a décimé environ deux tiers de la population d'Alexandrie, qui était une grande ville. Et durant la peste d'Alexandrie, les chrétiens se sont vraiment distingués, aussi parce qu'ils ont été encouragés par leur évêque, Cyprien de Carthage, qui les a encouragés à accorder leur conduite à leur foi. En gros, le résumé de son message, c'est: si l'espérance est dans l'éternité, pourquoi avoir peur de la mort et s'attacher à la vie dans ce monde? Si on prend Dieu au sérieux, on agit en conformité avec ce qu'on croit. Et la réaction des chrétiens face à la peste va montrer quelle est leur foi, quelle est leur espérance. On parle de choses graves, on parle de choses sérieuses, mais qu'est-ce qui s'est passé durant cette peste? C'est que chez les païens, qu'est-ce qui se passait? Vous ne serez pas étonnés, on chassait les malades, on les fuyait, on mettait ses proches parents à la rue quand on voyait qu'ils étaient malades, et puis on se taillait, on ne communiquait pas avec eux, on évitait la mort. Et les chrétiens, eux, c'était tout différent. Il y a des témoignages dans le livre d'Eusèbe de Césarée par rapport à ça. Eh bien, ils visitaient les malades, ils prenaient soin d'eux, ils les soignaient, ils leur donnaient des soins, ils leur manifestaient l'amour du Christ. Et beaucoup, après avoir soigné et réconforté les autres, eh bien, ils mouraient. Ils mouraient, et il y en a beaucoup qui sont morts en soignant des malades. Du reste, il y en a beaucoup qui sont morts, même en mettant à la rue leurs proches parents. Ça ne les a pas complètement protégés. Et moi, je suis impressionné par ça. Parce que quelque part, c'est vraiment des choses aussi que je veux pas mettre sous le tapis. Des exemples de ce que ça veut dire de vivre selon notre espérance. Un exemple extrême, une radicalité extrême, on est d'accord. Mais je vous ai parlé du monde gréco-romain, comme il était très différent de notre monde judéo-chrétien. Mais ces exemples-là, comme aussi les persécutions qui ont eu lieu, elles ont contribué à l'essor du christianisme. Il y a eu après des hôpitaux, il y a eu des hospices, il y a eu plein de choses que les chrétiens ont fait qui n'existaient pas dans le monde gréco-romain et qui l'a complètement transformé pour en faire un monde judéo-chrétien qu'on connaît encore actuellement très fortement, même si ça fait plus de deux siècles qu'on est dans un monde post-chrétien. C'est encore tellement fort, ils ont été le levain qui a fait lever toute la pâte. Ils ont vraiment été sel et lumière dans leur monde et ils l'ont transformé par ça. Et tout ça a eu un coût, bien sûr. Et ça m'interpelle. Et la question que je me pose, quand je vois ça, moi, d'abord, vraiment, je me sens tout petit. Et je me sens bien tiède. On a dit ça aussi, on a chanté qu'on se sentait tiède. C'est vrai, il faut le reconnaître. Mais il ne faut pas s'arrêter là. Et je me pose inévitablement la question, sommes-nous encore celles les lumières? Le vin qui fait lever toute la pâte, est-ce qu'on vit de manière prophétique dans le sens où on montre que la nouvelle création est déjà là par notre vie, que la nouvelle création est déjà là au milieu de l'ancienne, que le royaume est là? Ou bien est-ce que c'est la société qui transforme l'Église? Les valeurs de ce monde qui transforment l'Église? Je ne dis pas que c'est simple de vivre en conformité avec ce qu'on croit, comme les chrétiens du nouveau siècle. Ce n'est pas facile de ne pas se laisser séduire par les idoles de ce monde. Et puis, c'est un équilibre délicat. C'est un thème en soi de dire comment est-ce qu'on peut vivre selon les valeurs du royaume. Déjà, il faut les connaître. Et puis après, voir comment le faire pratiquement, individuellement et communautairement. Mais vraiment, ce n'est pas simple de trouver l'équilibre entre la confiance dans la provision de Dieu, puis le fait que, pas tomber dans l'irresponsabilité, qu'on doit faire quelque chose aussi. L'évangile, on voit dans les textes du Nouveau Testament que Paul appelle les chrétiens à travailler, c'est pas quelque chose qu'on doit pas faire, on doit le faire. Mais sans que ça devienne un but ultime, sans que ça devienne la valeur suprême ou notre idole, vous voyez, dans le sens que, je ne veux pas répéter le message. Et puis, il y a aussi plein de manières différentes, il n'y a pas qu'une seule manière de vivre la radicalité de l'évangile, à laquelle on est tous appelés, et puis c'est ça que j'ai compris, qu'on peut faire l'économie de ça. Et c'est aussi l'apprentissage de toute une vie, ça se fait pas après pas, quand on laisse l'évangile visiter nos idoles, nous persuader et nous remettre en question. Mais ne pas se conformer au monde présent, le renouvellement de notre intelligence, merci Maurizio de nous avoir rappelé ça encore aujourd'hui, tu as dit plein de choses déjà du message, ça prend du temps, ok, mais à un certain moment, et c'est mon expérience, il faut laisser Dieu percer nos défenses. Il faut laisser la parole nous bousculer, nous déranger vraiment sur la durée. Il faut laisser Jésus vaincre nos peurs, et il y en a, moi j'en ai. Peur de manquer, c'est une peur dans laquelle je dois toujours amener à la croix. Et nous laisser surtout convaincre, laisser Jésus nous convaincre de son amour, sa provision, sa grâce, sa fidélité. Si Dieu nous a donné son Fils, combien plus forte raison ne donnera-t-il pas tout avec lui par grâce, en tout cas tout ce qu'on a besoin. Et voilà, je m'arrête là par rapport à ça. La fidélité à l'évangile, ça passe d'abord par les cœurs, et c'est là que je voulais mettre un petit peu l'accent aujourd'hui. Le reste en découle, et on va avancer. Dieu a commencé une œuvre dans nos cœurs, c'est vrai, il va la poursuivre, par grâce. Mais il faut dire oui à la grâce. Et c'est à ça que je vous invite. Aujourd'hui, vous êtes d'accord que ça aurait été égoïste de ma part de garder tout ça pour moi, et peut-être ça aurait été bien de le dire à un autre moment que lorsque la moitié de l'Église est en vacances, mais ce n'est pas grave, j'ai vraiment eu la conviction, les absents ont toujours tort. Mais en plus, c'est enregistré, donc il n'y a pas de problème pour ceux qui... de réécouter ça. Je vais terminer avec quelques questions, et puis après, on va prendre simplement un moment de silence, et puis réfléchir à tout ça, laisser Dieu nous parler. Ce n'est pas la culpabilité qui est le bon moteur, mais laissez Dieu vous convaincre dans son amour, peut-être vous montrer quelque chose qui peut vous concerner par rapport à ça. Je termine donc avec quelques questions pour résumer et conclure. Qu'est-ce qui a la priorité dans ma vie, la recherche, l'attente aussi du royaume, la volonté de mon Père Céleste, c'est ce qu'on prie, hein, que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite. Ou est-ce que ce qui vient après dans la prière qui est essentiel et prioritaire, le pain d'aujourd'hui, le pain de demain, le pain du surlendemain, etc., etc. Est-ce que ma vie est orientée par la perspective de l'éternité ou est-ce qu'elle est centrée sur la vie présente, sur les choses qui passent, comme tous ceux qui n'ont pas d'espérance? Question posée par Léo, et je la répète parce qu'elle a tout son sens aussi dans le contexte de ce message. Est-ce que Dieu est le sponsor de mes désirs, juste bon à me donner la santé, ou voilà, on a tous des désirs, hein. Il parlait de désirs égocentriques. Ou dois-je réévaluer ma relation avec Dieu? Et puis, dit autrement et un petit peu plus concrètement, est-ce que Dieu est là pour moi, pour mon confort spirituel, pour me rendre la vie sur terre plus agréable, sans souffrance, ou est-ce que c'est moi qui suis là pour lui? Est-ce que je vis pour moi ou pour Jésus qui m'a racheté de la vaine manière de vivre héritée de mes pères, non avec de l'or ou de l'argent, mais par son sang précieux? Alors, laissons Dieu nous parler par rapport à cela et peut-être Maurizio. Puis après, si l'un ou l'autre veut prier, c'est possible aussi.